Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg pour un nouveau numéro de Talk Show, le magazine des médias et de la télévision. Michel Drucker, l'animateur de Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain sur France 2, est notre invité. On le retrouve tout de suite. Notre invité est Michel Drucker. France 3 diffusera dimanche à 15h10 un documentaire qui lui est consacré, réalisé par Richard Valverde. Ce documentaire retrace les coulisses de son one-man show de toute la France et jusqu'à Tel Aviv. Bonjour Michel Drucker.
Bonjour.
Est-ce que c'est bien le bon résumé, c'est dans les coulisses de votre one-man show?
Oui, la seule chose c'est que il faut dire que la captation du spectacle a lieu avant, à 13h30.
D'accord.
Eh ben, il y a tout le spectacle à 13h30.
D'accord.
Que les spectateurs n'ont pas encore vu. Et derrière, à 15h10, il y a le documentaire d'une heure qui retrace toute cette aventure et qui se termine puisque j'ai fait 130 dates en 2 ans et demi et la dernière date, c'était Tel Aviv.
On en parlera dans un instant. Moi, je voulais vous poser une question un peu annexe au départ. On vous voit beaucoup dans les émissions de télévision, de radio. Vous faites des interviews de bonne grâce ou parce que ça fait partie de votre métier?
Alors, ça fait partie de mon métier. Hein, je fais plusieurs métiers, mais vous savez, je fais de la télévision, je fais de la scène, qui n'a rien à voir. Je fais la promo des émissions de télévision, ouais. Et je fais la promo maintenant de mes spectacles, comme un artiste, comme les autres, parce que je suis devenu aussi un artiste, je suis passé de l'autre côté régulièrement, j'ai voulu savoir ce que c'était d'être sur scène, tout seul, et que ce que ressentaient tous ceux que je présente depuis tant d'années, donc je me suis lancé dans cette aventure folle il y a 3 ans, sans savoir que ça fonctionnerait, et la première tournée était un tel succès que je me suis dit j'ai envie de continuer. Comme j'avais fait 130 dates, je me suis dit bon, je vais essayer d'écrire un deuxième spectacle très différent du premier, ce que j'ai fait, et je suis sur les routes depuis maintenant 10 jours.
Alors, on l'a dit, alors ce qui est intéressant dans votre reportage, c'est qu'en fait, on vous voit carrément dans votre salon, chez vous, en train de préparer le spectacle. C'est vraiment là que ça commence?
Oui, c'est ma fille qui me fait répéter d'ailleurs, parce que ma fille qui m'a fait travailler beaucoup le premier spectacle, décoratrice, scénographe, elle m'a mis en scène complètement dans le deuxième spectacle. Donc c'est quelque chose de très laborieux, il faut travailler beaucoup. J'ai commencé à écrire ce deuxième spectacle il y a 1 an. Le premier que vous avez vu, que j'étais en train d'écrire en Provence, c'était 1 an avant de le jouer.
Oui.
Et c'est quelque chose de très précis, très minutieux. Maintenant, je commence à comprendre comment travaillent tous ceux que je présente et qui, eux, sont des humoristes professionnels. Moi, je fais pas du stand-up d'humour, mais je suis là pour raconter les choses tout seul. C'est un peu très, très différent ce que je fais. J'étais plutôt un raconteur d'histoires dans le premier, que vous verrez juste avant la captation dimanche,
oui,
qui était seul avec vous. Et dans le deuxième, qui s'appelle De vous à moi, je suis beaucoup plus acteur.
D'accord.
J'interprète plus des personnages et puis je raconte surtout des choses que j'ai pas racontées dans le premier spectacle, et alors, je rends hommage à des gens dont je n'ai pas parlé dans le premier.
Justement, vous avez 50 ans de carrière, vous avez rencontré un nombre impressionnant.
Ça fait 55.
Ah, excusez-moi, autant pour moi.
Vous m'avez rajeuni, mais 55, malheureusement 55.
Il y a des milliers d'histoires. Comment on choisit qu'on va raconter telle anecdote plutôt que l'autre? C'est sentimental.
On essaie de construire un spectacle très équilibré, avec des choses drôles, des choses moins drôles, des choses émouvantes, et avec une alternance de moments de sourire, de rire, et des moments où on est ému. Donc voilà, j'ai essayé de parler à la fois des gens qui m'ont fait rire, et c'est pas forcément des gens célèbres, les téléspectateurs aussi peuvent être très drôles.
Ouais.
Et la seule chose que j'ai gardée du premier, qui est mon rappel, quand j'ai fini, que je sors de scène et je reviens sur scène, la seule chose que j'ai gardée, c'est mon hommage assez drôle, je dois dire objectivement, à Johnny.
Est-ce que le métier que vous avez de journaliste, enfin d'animateur, de journaliste, et le métier d'acteur est totalement différent? Vous le dites dans le reportage.
C'est différent, mais avoir été journaliste et animateur, c'est une bonne formation pour être seul sur scène et faire du stand-up. Moi, ma formation, c'est d'être journaliste. J'ai aimé écrire ces deux spectacles que j'ai écrits à 100%.
Ouais.
Le deuxième, J'ai écrit à 90%, mais j'ai demandé à quelques copains humoristes de jeter un œil là-dessus, notamment Philippe Cavrivière, qui travaille pour Canteloup ou pour les Restos du Cœur, qui m'a, avec deux copains, donné quelques conseils, qui m'a guidé un petit peu, qui m'a apporté des choses un peu plus nerveuses que je faisais moi.
C'est le même métier, vous présentez de la même façon, comme vous êtes à la télé, vous arrivez sur scène, ou c'est différent?
Non, c'est différent. C'est différent, on est tout seul, c'est pas la même chose, il n'y a plus de caméra. Je suis en position verticale, oui. Et non pas assis sur mon canapé. Et puis, devant une salle de 700 ou 800 personnes, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose que d'avoir 3 ou 4 millions de gens de l'autre côté assis sur son canapé. Là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de fil. Les gens sont devant moi et il n'y a pas un public qui ressemble à une autre.
Alors, je disais, vous êtes allé faire votre spectacle dans toute la France également, en Israël. Et dans vos interviews, vous dites que votre spectacle en Israël à Tel Aviv, ça a été totalement différent. Il y a eu quelque chose en plus. C'est quoi?
Vous l'avez vu, la fin, c'est émouvant.
Oui, oui.
Mais une salle de 1000 personnes à Tel Aviv, dans
qu'est-ce
un pays
qui
n'est pas étranger, puisqu'une voilà, alors, famille avait immigré là-bas.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en jouant là-bas?
J'ai beaucoup pensé à ma famille, qui était une partie... Moi, je viens d'Europe centrale, hein, je suis un Ashkenaz, ce qui fait qu'une partie de ma famille, celle de ma mère, avait immigré d'Europe centrale en Israël dans les années 50. C'est à l'époque le début de l'État, c'est l'aventure en Israël commencée. C'était Ben Gurion et Golda Meir qui avaient les commandes, donc ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, beaucoup de conversations de mes parents, parce que on parlait beaucoup d'Israël quand j'étais enfant. Mmh. J'étais jamais allé parce que mon père nous avait pas été élevé totalement dans la tradition, ma mère beaucoup plus, et ma mère a regretté qu'on ne soit pas allé plus souvent en Israël, donc là j'ai rattrapé le temps perdu.
Ouais.
La Tzedaka m'en avait donné déjà envie, parce que j'étais parrain à la Tzedaka cette année, mais j'étais venu à la Tzedaka il y a déjà plusieurs années.
Ouais.
Et quand je suis arrivé à Tel Aviv ou à Jérusalem, surtout à Jérusalem, j'ai ressenti quelque chose quand même d'indéfinissable, une espèce des racines, des origines qui remontaient à la surface. Et même si on n'est pas croyant, si on n'est pas pratiquant, devant le mur et sur le mont des Oliviers, et quand on visite le mémorial Yad Vashem, on sort de là quand même très troublé, très, très secoué, donc je ne regrette pas d'être venu. Et puis Tel Aviv, c'était un grand éclat de rire et une grande émotion de voir beaucoup de Français qui vivent là-bas, qui sont venus m'applaudir.
Alors,
j'y retourne au mois de juin.
Oui, ah, d'accord. Vous y retournez quand?
En juin,
d'accord. Alors, il faut savoir, et ce qui était intéressant, c'est que vous l'avez dit aussi dans le reportage ou dans une interview, que les gens ont fait, en fait, une standing ovation avant le spectacle.
Oui, qui est très troublant. Qui est très troublant. D'habitude, quand les gens se lèvent, c'est plutôt à la fin. Et dans les meilleurs des cas, il reste 4 minutes à vous applaudir debout. Mais là, quand c'est au début, c'est très déstabilisant, parce que j'avais du mal à parler, tellement c'était émouvant. J'y retourne volontiers parce que c'était un grand souvenir. C'était très chaleureux.
On a l'impression depuis quelques années que vous revenez vers vos racines juives ou vers Israël. C'est dû à quoi?
C'est la famille, c'est le fait qu'avec les années, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. C'est que souvent, il faut du temps. Il faut du temps pour retrouver ses racines. Moi, ça a pris beaucoup de temps parce que mon père nous a pas du tout élevés dans cette tradition. Il voulait découdre définitivement l'étoile juive. Il voulait qu'on oublie définitivement ce cauchemar qu'ils avaient vécu, que la Shoah, etc. Et il se disait la meilleure façon de l'oublier, c'est ne pas en parler, mais en se souvenant toujours. Donc on en parlait assez peu. Mais on avait quand même un lien fort avec Israël parce que mon cousin était né là-bas, ma tante, qui a fini sa vie là-bas, était venue dans les années 50, comme je vous l'ai dit, c'était la sœur de mon papa. Le frère de ma maman était sculpteur à Haïfa. Hein? Donc j'entendais parler d'Israël régulièrement.
Même vous ressentez juif à part entière, entre guillemets?
Comment?
Vous vous sentez juif à part entière?
Je me sens un Ashkenaz venu d'Europe centrale qui n'a pas oublié ses racines, même si je n'ai pas pratiqué, et qui a de la mémoire et qui ne veut pas oublier, car il ne faut pas oublier d'où on vient, surtout en ce moment. Je le sens de plus en plus depuis quelques années, parce qu'il y a quelque part un relent, il y a une espèce de climat assez douloureux. Monsieur Macron en a très bien parlé l'autre jour en Israël, et c'est vrai que on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. Quand on vient d'Europe centrale et qu'une partie de sa famille a vécu là-bas. Donc, c'est un peu quelque part aussi un deuxième pays pour moi. Parce qu'une partie de ma famille y a vécu et a terminé sa vie là-bas.
Michel Drucker, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant après cette pause musicale. Et on retrouve notre invité, Michel Drucker. Alors, on va revenir à votre spectacle que vous avez en train de travailler. C'est un peu la suite de l'ancien ou un nouveau. Il y a de nouveau le track qui revient, ou ça y est, vous avez eu votre dose.
Vous savez, le stress, l'angoisse et l'inquiétude, c'est très juif. On n'a pas besoin d'être un homme de spectacle pour connaître l'anxiété, le doute et l'angoisse de ceux qui viennent de loin. Donc, j'ai été élevé dans une atmosphère assez anxiogène.
Ouais.
Mon père nous a transmis ça, l'inquiétude, la peur que ça recommence. Cette inquiétude, on l'a en nous. Donc, je l'avais déjà naturellement, cette angoisse. Mais, évidemment, cette angoisse est devenue plus importante avec ce métier, qui est un métier très angoissant. Donc, être sur scène, c'était une charge de stress considérable. Mais, J'ai toujours essayé de gérer ça depuis que je fais de la télévision, depuis les années 65. J'ai voulu transformer ce stress en énergie. Ce qui fait que le trac que j'ai, c'est un trac positif, c'est pas un trac négatif.
Alors Michel Ducœur, on va quand même revenir un mot sur la télévision, puisque vous présentez Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain, sauf ce dimanche à cause du tournoi des Destinations.
Je suis à la même heure, mais sur la 3.
Voilà. Alors, dans une interview, vous affirmez que vous saviez à quel âge vous allez arrêter de faire la télévision. Ça y est, c'est décidé, c'est une date arrêtée.
Sur scène, dans un nouveau spectacle, je dis que mon âge pivot, j'ai fixé à 90 ans.
Ouais, d'accord.
Aznavour m'avait dit c'est une bonne moyenne, 90 ans.
D'accord.
Vous savez,
c'est pas mal, hein.
L'âge ne veut plus rien dire maintenant.
C'est dans la tête.
Charles Aznavour a chanté jusqu'à 94 ans. Lynn Renault, à 90 ans, n'a jamais autant tourné. Hugo Frey, à 90 ans, il fait 50 galas par an. C'est fini maintenant. L'âge, c'est plus comme avant. Vieillir, on ne peut pas l'éviter. Mais devenir vieux, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Moi, je connais des gens de 40-50 ans qui sont déjà vieux.
D'accord.
Et quand je vois Hugo Frey sur scène, je peux vous dire qu'il est jeune.
Mais vous, pour l'instant, vous nous aviez dit aussi dans une interview que vous avez peut-être arrêté les grands shows, en tout cas les grandes émissions du samedi soir.
J'ai fait tellement de grands shows dans ma vie que le talk show me passionne davantage, parce que dans le talk show, on peut prendre son temps, on peut bavarder avec des gens, alors que le show n'est pas fait pour l'interview. Le show, il est fait uniquement pour le show.
D'accord. Donc c'est
le
fini.
Talk show, on peut faire son métier de journaliste, qui est mon premier métier.
Alors,
rencontrer des gens très différents qu'on ne peut pas rencontrer dans les grands shows.
D'accord. Donc c'est fini les grands shows, les grandes émissions de scène.
Sauf de temps en temps. Quoi. Là, on m'a demandé de participer à ma manière aux Victoires de la musique. Prochainement, je le ferai. Si on me demande une fois ou deux fois par an de faire quelque chose d'exceptionnel, pourquoi pas, parce que c'est un métier que je connais bien. Mais rencontrer des gens, des écrivains, des scientifiques, des politiques, des journalistes, des gens venus de tous les horizons, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que Vivement Dimanche me permet de faire.
Vous avez affirmé une fois que Cyril Hanouna serait un très bon futur président de chaîne, et vous ?
Ah non, 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 moi c'est pas mon truc, moi, parce que je sais pas dire non. Il faut avoir beaucoup d'autorité, c'est pas mon cas. Moi, je suis trop bienveillant et trop entre guillemets, gentil.
Donc, pour vous, patron de chaîne.
Pour être un patron, on ne peut pas être gentil tout le temps. Et moi, je ne sais pas. Non, non, moi, mon métier de saltimbanque me convient parfaitement. Si mon frère avait vécu plus longtemps, j'aurais peut-être accepté d'être patron de chaîne avec lui.
Ouais.
On serait très bien complété, mais non, non. Quand on est un homme d'antenne, passer de l'autre côté, devenir un patron, il faut vraiment ne plus avoir du tout envie de faire de l'antenne, et ce qui n'est pas mon cas.
Si France 2 vous remercie à la fin de l'année, vous reviendrez à la télévision ou vous arrêtez ?
Ah, ben je ne sais pas ce qui peut se passer. Vous savez, je remercierai déjà France 2, les téléspectateurs, de m'avoir permis de faire mon métier pendant 55 ans. Est-ce que vous imaginez que c'est d'être à la télévision depuis 55 ans ? Vous n'imaginez pas. Avoir fait trois générations d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, d'hommes politiques, etc. C'est déjà tellement incroyable ce que j'ai vécu que chaque année qui passe, c'est pour moi du bonus. Mais le jour où ça va s'arrêter, je n'aurai pas à me plaindre, loin de
mais
ça.
Vous continuerez à faire de la télévision à M6
Non, je ferai continuer à faire de la scène, peut-être de la télé de temps en temps, mais je ferai de la scène sûrement.
Voilà. C'est votre nouveau métier, vraiment ?
Oui, c'est là où je me sens très heureux.
Ma dernière question, Michel Ducœur, on est en début de l'année 2020. Quels seraient vos voeux pour vous et pour nos auditeurs pour la nouvelle année ?
Que la paix soit garantie pour tout le monde, voilà, ce qui n'est pas le cas. Que les gens soient en bonne santé surtout. Et que vous puissiez faire le métier dont vous rêvez et de faire une passion à un métier. Quand on arrive de vivre d'une passion et d'en faire un métier, c'est formidable. Il y a tellement de gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas, qu'ils font parce qu'il faut bien gagner sa vie. Moi, je fais un métier qui est une passion, donc ce qui fait que c'est très différent. Donc je souhaite à tout le monde de trouver un jour la vie dont il rêve.
Et pour vous, vos voeux ? Pour vous personnellement ?
Moi, de continuer à être en bonne santé et de continuer à faire des émissions et à continuer à être sur scène. Je pense déjà mon souhait, c'est dans 2 ou 3 ans d'amener mon show un peu dans le monde entier, parce que mes émissions passent dans le monde entier grâce au satellite TV5 Monde. Et TV5 Monde va pouvoir m'amener partout, dans toutes les capitales du monde, parce qu'il y a des expatriés, des Français du bout du monde. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans toutes les capitales du monde, il y a des lycées français ou de l'Alliance française. Et donc, j'ai envie d'aller à la rencontre de ceux qui me reçoivent très loin de la France, par TV5 Monde.
Merci Michel Drucker. Voilà. Rendez-vous dimanche sur France 3.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, au revoir.